voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Alain Corbin. Ce soir, l'enfance nomade.
Bonsoir Alain Corbin.
Bonsoir.
Vous êtes un historien spécialiste du 19e siècle. Vous êtes né en 1936. Parmi les titres célèbres dans votre œuvre, il y a « Le miasme et la jonquille » et « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinagot. Votre singularité, c'est une curiosité pour des objets inattendus. Le goût du rivage, les odeurs, le temps qu'il fait, la jouissance, la vie d'un sabotier analphabète, l'herbe, le silence, le désir masculin pour la sexualité vénale. Vous vous êtes distingué en travaillant sur ces motifs au moment où l'historiographie française était militante et s'attachait à démontrer qu'il existait un sens logique de l'histoire menant au progrès, dont l'avènement de la République en France aurait été l'une des conséquences. Or, selon vous, en histoire, il n'y a pas de progression qui tienne, mais des discontinuités, des points de bascule. Pas d'effet de masse qui vaille, pas de caractérisation possible d'un groupe en bloc, les femmes, les exclus, les ouvriers, mais des nuances, des individus et des moments passés que l'on ne doit pas éclairer à la bougie du présent. L'un de vos leitmotifs, et nous en parlerons vendredi soir de vos credos, c'est « Halte à l'anachronisme ». Les odeurs, le temps qu'il fait, le rivage, ces objets font de vous, Alain Corbin, un historien des sensibilités, du sensible, des représentations. D'où vous viennent ces idées? Et si l'on accepte que l'historien pose au passé des questions que lui suggère le présent, quel est le présent qui vous forge?
Ça, c'est très difficile à dire. D'abord, ce postulat que c'est le présent qui forge les interrogations sur le passé peut être discutable. Il est très difficile de savoir pourquoi on fait quelque chose, on étudie quelque chose, sinon c'est à la fois une pulsion, un désir, une idée, et aussi la possibilité de traiter, parce qu'il s'agit d'histoire, de traiter, c'est-à-dire de savoir s'il y a des sources. Hein, ça paraît essentiel, mais comme vous l'avez dit, le pire, c'est l'anachronisme psychologique, c'est-à-dire de ne pas chercher à comprendre vraiment en profondeur les gens du passé et les différences qu'il y a avec nous. Donc ça exclut toute histoire vraiment ancrée dans le présent, parce que l'histoire, c'est un voyage. C'est un voyage dans le passé. Alors, lorsqu'on voyage, c'est pas pour aller rencontrer des gens qui sont semblables à soi. Quand on voyage, c'est pour retrouver des gens différents.
Alors vous êtes né, Alain Corbin, en Normandie, dans le Bocage normand, en 1936. Et vous avez grandi, c'est une ville, vous avez grandi dans l'Orne, à Lonlay-l'Abbaye, une oui. Petite ville médiévale. Vous avez grandi auprès d'un père très présent, puisqu'il était médecin de campagne et que ses consultations se faisaient chez vous. Médecin de campagne, arrivé en France depuis la Guadeloupe, où il est né. En 1920, pour y faire ses études de médecine. Vous dites, Alain Corbin, lorsque vous racontez vos souvenirs de jeunesse, que vous n'avez pas le souvenir que la couleur de sa peau ait été même une question.
Non, je n'ai jamais souffert de racisme. Ça vient peut-être du fait qu'il était le seul à 30 km à la ronde. Et par conséquent, il n'y avait pas de menace de subversion. Mais non, le racisme n'existait pas vraiment. Je l'ai pas senti, je l'ai pas ressenti non plus à l'école primaire. Hein. Les seules choses dont on s'est moqué, c'est parfois le nom, parce que dans le bocage normand de l'époque, Corbin, ça veut dire un corbeau.
Votre père était très colérique.
Oui.
Autoritaire.
Oui.
Votre mère moins.
Ah bah oui.
Et vous viviez, il y avait à la maison vous aviez deux frères.
Non, un frère.
Un frère qui est médecin.
Oui.
Oui. Et il y avait la bonne qui habitait avec vous dans la maison, que votre père réveillait lorsqu'il se réveillait, afin qu'elle allume les poêles dans la maison.
Ah ben oui, elle avait 9 poêles en hiver, quand il faisait vraiment très froid. Elle devait allumer 9 poêles jusqu'à l'arrivée du chauffage électrique en je sais pas, vers 1950, hein, pas avant. Mon père l'a réveillé très tôt parce qu'il allait à la messe tous les matins. La messe de 6 heures, le pauvre homme.
Et vous avez des souvenirs des visites faites en compagnie de votre
oui,
père?
Oui, c'est-à-dire que ça m'imprégnait. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un chemin, parce qu'il n'y avait pas toujours un chemin dans ce bocage, hein, il fallait qu'il finisse le trajet à pied, il avait des bottes. Il avait une grande boîte pour des instruments dans le dos. Mais sinon, lorsqu'on arrivait jusqu'à la cour, je restais pendant la visite et je regardais. Oui, ça m'a marqué. C'est une connaissance visuelle et auditive et vraiment une proximité avec les paysans.
Hein. Et les corps.
Je dis les paysans parce que c'est comme ça qu'on les appelait.
Vous appartenez à la bourgeoisie rurale.
Oui, si on peut, si vous voulez. Bah oui, il y avait le docteur, il y avait le médecin, il y avait le vétérinaire, il y avait le curé surtout qui régentait tout. J'étais, entre guillemets, un fils du docteur, voilà.
Et vous alliez pour les vacances dans la maison?
Complètement différent. On passait, pour ceux qui aiment la littérature du 19e siècle, on passait des romans de Barbey de Révy aux nouvelles de Maupassant. On passait du granit au sédimentaire. Hein. Et alors là, c'était chez ma grand-mère, là, c'était très différent. Mon grand-père avait été tué à la guerre de 14. Ma mère était donc pupille de la nation. Et elle avait fait ses études dans le village. On disait le village, nous disons dans la commune, d'essai. Et j'étais repéré. On savait qui j'étais, etc. J'étais plus du pays, si vous voulez, chez ma grand-mère quand j'allais en vacances, que je ne l'étais à l'Olé pays, puisque mon père était simplement un orsin, il venait d'ailleurs.
Vous êtes allé uniquement dans des écoles catholiques, Alain Corbin.
D'abord, je n'ai pas appris, j'ai pas voulu aller à l'école, j'ai fait une telle colère, je me roulais par terre, etc., qu'ils ont décidé que ce serait ma mère qui m'apprendrait les rudiments. Alors, dès que j'ai su que c'était ma mère, j'ai travaillé à toute vitesse, elle m'a appris à lire, écrire, compter, petites rédactions, etc. Dans un rien de temps, donc je suis arrivé à l'école à 6 ans et demi, mais en deuxième, je puis dire, deuxième année. C'était une école catholique, évidemment, un sacré cœur de Domfront. Domfront, c'est une ville un peu oubliée, qui a été longtemps une sous-préfecture, qui est très belle, qui est médiévale, qui a une ambiance intense à Domfront. Je fais de la publicité un peu. Domfront était autrefois sur la route du Mont-Saint-Michel, donc il y avait beaucoup de monde. Maintenant, tout le monde passe par l'autoroute, par conséquent, par le nord.
Il était hors de question, Alain Corbin, que vous alliez à l'école laïque.
Pour deux raisons. Mais bon, il y a le catholicisme, il y avait le Sacré-Cœur, c'est 7 kilomètres. Et puis, c'était plutôt une école de petits bourgeois dont vous parliez. Mais c'est surtout que la langue, à l'époque, là on est en 1942, hein, la langue n'était pas très... Bon, il y avait du patois, on disait bon, la langue vernaculaire, mais on disait du patois. J'ai encore, paraît-il, quelques intonations parfois de cela, mais mon père préférait que j'aille à une école où on parlait, lui qui venait de la Guadeloupe, hein, il avait une attirance particulière par la manière de parler des paysans dans les pays, voilà. Hein.
Vous êtes allé à la Guadeloupe, enfant?
Mon père m'a emmené, je ne me souviens pas, j'avais un an et demi, c'est pour ça qu'il est rentré, j'ai eu le paludisme. Et ma survie était problématique, alors ils ont décidé de rentrer.
Quel souvenir avez-vous, Alain Corbin, de la guerre?
Ah, beaucoup. Quand on m'a envoyé en Algérie et que j'étais auprès de Sétif dans la Métidja, ça me faisait rigoler, cette idée de guerre. Parce que la guerre, vraiment, je l'avais connue en 1944. Le jour du débarquement, j'étais réveillé par une sorte de bruit de fond, hein, simplement. Et on a attendu pendant un mois les réfugiés de Villers-Bocage ou autres qui avaient survécu au bombardement américain passé. On en avait recueilli quelques-uns, puis... Au bout d'un mois, on s'est dit, attention, ça approche, il serait peut-être temps de quitter le bourg. D'ailleurs, tout le monde a quitté le bourg, mon père est resté un certain temps. Les Américains sont arrivés, repartis, donc les Allemands ont brûlé tout le bas du bourg, en représailles, et nous, on était partis dans une ferme. On était 9, 12, je ne sais plus combien, dans une pièce... On avait l'ancien combattant qui était de 14, qui était là, avait fait creuser une tranchée. Alors la nuit, c'était près de, entre Longueuil et Mortain. Il y a eu les Allemands ont essayé de couper la ligne américaine qui descendait le Cotentin par la côte. Et donc, pendant 8 jours, on allait à la tranchée la nuit, parce qu'on entendait siffler au-dessus des... Bon. Et puis, une journée, il a fallu traverser les lignes pour retrouver les Américains, traverser les lignes. Et là, on a reçu quelques obus. Je raconte ça dans mon petit livre, « Sois sage, c'est la guerre ». Ça m'avait marqué... J'ai eu très peur une journée. Voilà, une journée. Mais le lendemain, on a fait 34 kilomètres pour s'enfoncer dans les lignes américaines. Et ça a été oublié, vous savez, quand je parle, on me parle aujourd'hui de trauma, etc. Nos enfants, bon, ça, on n'a pas jamais senti ce genre de choses. J'ai eu très peur pendant une heure ou deux, quand il y avait des obus, et que l'ancien de la guerre de 14, on dit, ils raccourcissent le tir. C'était un spécialiste, il avait été 14 ans dans les tranchées. Ils raccourcissent le tir. Alors, la dernière fois qu'il avait raccourci le tir, effectivement, c'était tout près, on était dans un chemin creux, là. Hein, et puis après, il a dit, on peut être tranquille, ils vont continuer de raccourcir le tir. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'est les odeurs. L'odeur des, peut-être le bruit épouvantable, quelque chose, mais l'odeur de la poudre.
Et avant 1944, vous n'avez pas souvenir d'avoir entendu vos parents parler de la guerre?
Si, parce qu'on avait fait, le premier souvenir, c'est l'exode. Mon père, qui était arrivé en 38, qui n'était pas très attaché là, à la région, à la venue des Allemands, à l'arrivée des Allemands, on dit, on s'en va, on fait. Donc, on a été l'exode. Mais on exode assez tranquille, 3 jours. 3 jours pour arriver au Boucau, c'est dans la région de Bayonne, là, dans le sud des Landes. On était accueillis par, on avait 2 voitures, mon père et mon frère devant, et moi, ils avaient attaché, parce que ma mère ne savait pas conduire, mais comme ça, une petite Simca 5 à laquelle j'étais avec une vieille arrière-grand-tante. Donc, c'était des souvenirs quand même, parce qu'on est resté 15 jours dans les Landes, c'est pas mal, et ensuite on a été bloqué, parce qu'il fallait revenir, à la ligne de démarcation, parce qu'il y avait la ligne de démarcation, à la hauteur du mont d'Arbazac dans le Limousin, et là on est resté 15 jours dans des fermes. Oui.
Et vous n'avez pas, là non plus, pas de trauma, le fait de quitter la maison?
Bon. J'ai trauma dans la mesure où j'avais une dysenterie, parce que faut dire que les monts d'Arbazac en 40, je ne veux pas en dire du mal, mais bon, c'était assez facile d'attraper une dysenterie quand on venait de pas très habitué. Mais non, bon, c'est traumatisme, non. Non, non. Mais, alors ensuite, pendant l'occupation, bon, on voyait des Allemands de temps en temps. Hein,
Est-ce qu'il fallait rendre hommage à Pétain
Pétain,
en
oui.
J'ai pas été
sermonné dans ce domaine. Hein, j'ai mangé, comme tous les gosses, des biscuits offerts par le maréchal Pétain. Mais c'était pas une institution dans laquelle on faisait du... de la propagande, un maréchal nous voilà, etc. Non, hein. Un jour, il y a quelqu'un qui, avait donné une Francisque à mon frère qui avait 7-8 ans. Hein. Quand il est arrivé à la maison, mon père a dégagé ce signe. Mais il n'y avait pas d'hostilité. Oh, le curé était assez dans la ligne du maréchal. C'était en 41. À la messe, c'était assez... normal, on ne parlait pas d'antisémitisme. D'abord, il n'y avait pratiquement pas dans cette région, d'après les cartes que j'ai vues plus récemment, de juifs, mais c'était. Bon, il était dans la ligne, comme beaucoup de prêtres du maréchal. Hein, voilà.
On ne parlait ni d'antisémitisme, ni de ce qu'on a appelé après l'Holocauste.
On ne parle que des armées nazies, mais j'ai jamais entendu ça à cette époque. Les armées, c'était des armées allemandes, hein. Et alors, quand on en parlait entre nous, c'était les Boches, hein. Les Boches, les Frisés, les Fridolins, les Doréforts, tout ce que vous voulez. Mais pas les nazis. On oublie ces choses-là. Voilà, on parlait d'anachronisme. On oublie.
Est-ce que votre...
Les Boches, ça venait de 70, hein, mais 1870, mais
et
c'était en 14, et c'était normal, il y avait des tas de veuves de guerre, là, à cette époque-là, et tout, c'était les Boches. Hein.
Et vous connaissiez, Alain Corbin, les idées politiques de vos parents, Pendant la guerre, et vous en avez dit un mot, mais
Père n'était pas, absolument pas militant, il ne parlait pas de ça à table, ni nulle part. Je n'ai jamais entendu dire ni du mal, ni du bien du maréchal Pétain. En revanche, il a été par la suite gaulliste, un peu militant du général Gaulle, mais bien plus tard, hein, bien entendu.
Bien plus tard, c'est-à-dire même...
58, là, il était conseiller municipal, et il allait voter pour les sénatoriales, tout ça. Et à cette époque-là, il était, on peut dire, je ne sais pas comment s'appelait le parti d'ailleurs, avant le RPF, il était gaulliste, quoi, il aimait bien le général de Gaulle.
Il n'y avait pas de sens de la lutte des classes à la maison. Non.
Oh, oh, pff. Ben non, il n'y avait pas. Vous savez ce qui intéressait, moi je suis allé, quand j'avais 20 ans, je ne votais pas. J'étais licencié d'histoire, mais je n'avais pas le droit de vote. Hein, parce que c'était 21 ans. J'allais aux réunions quand même, ça m'intéressait. Il y a une chose, le grand thème dans ces réunions électorales, c'est le paysan qui se levait et qui disait, qui demandait aux candidats, et pour bouillir, ça veut dire le calva. Voilà. C'était un grand centre de fabrication du calvados. Une partie du bourg vivait, hein, d'ailleurs, de la fraude, et de la, etc. Moi, j'ai vu la régie entourer le bourg pour essayer d'arrêter ça. Il y avait des convois de calva vers Paris, etc. Bon, ça, c'était important.
Dans une introduction qu'il a écrite pour un volume qui rassemble certains de vos livres, Alain Corbin, publié chez Robert Laffont, Pascal Horry écrit qu'il y a chez vous une imprégnation religieuse et un sens du tragique. Alors, ça, c'est lui. Alors, l'imprégnation religieuse, oui. Le sens du tragique, je pense qu'il... Alors, sans doute l'attache-t-il au fait que vous accompagniez votre père
Oui, peut-être. Oui. Bah, aussi, au lycée, on apprenait beaucoup les tragédies classiques, hein, si vous voulez dire. Corneille et Racine, c'était vraiment fondamental dans notre enseignement. C'était joué, c'était... J'allais dire le siècle, le grand siècle, hein, qui est peut-être un siècle de tragédie. Et tragique, j'en ai gardé quelque chose. Hein. J'aime bien lire. Je lis la langue du grand siècle m'intéresse, bien que j'ai surtout travaillé sur le 19e. Tragique. La guerre, déjà, c'était tragique quand même.
Ah,
hein.
Quand même. Parce que vous
quand
dites
même,
que
parce qu'on disait, ce qui me frappait, c'est que j'appartiens à une génération qui est née en même temps. Donc, qui a pris conscience en même temps que la déclaration de guerre. Donc, l'identité infantile était absolument liée à la guerre. On n'entendait pas « Oh, ça, c'est un produit d'avant-guerre !» Ça voulait dire un caoutchouc d'avant-guerre ou un truc, bon. Voilà. L'avant-guerre était extrêmement présente. Il n'y avait pas d'après-guerre, puisqu'elle n'était pas finie. Mais la notion d'avant-guerre était extrêmement présente et impliquer une sorte de tragique, j'allais dire, quotidien. On savait qu'on était en guerre, qu'on envoyait de tout, on avait des victoires, hein. On ne manquait de rien, on l'a béni, hein. Et mon père, toutes les semaines, faisait des colis pour les Parisiens. Je faisais cuire de la viande, on mettait dans un paquet des œufs, du beurre, etc., et envoyait aux Parisiens. Nous, à la pension, c'était un peu différent. Et encore, un peu plus de privation. Il y avait le pain noir, quand même, hein, le pain, et puis les topinambours, les choses comme ça. Mon père avait fabriqué une sorte de boisson que j'adorais. Je ne sais pas, je n'ai jamais revu ça. C'était une boisson pétillante à l'aide des frênes. La frênette. Ça m'amusait parce que sinon c'est un pays à cidre, hein. Ma mère ne buvait que, elle était élevée à la pension, on avait du cidre, etc. Mais mon père n'était pas, évidemment, venant de la Guadeloupe, c'est le cidre. Et il trouvait que c'était pas une très bonne, il nous faisait boire du vin.
Mais donnait, à la pension, les enfants buvaient du cidre?
Ah oui?
Oui.
Pas jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était du cidre qu'on nous mettait à la pension. Non, cidre. Un peu tué. C'est ce que c'est qu'un cidre tué, c'est non. Un cidre un peu... tout ce qu'on vend aujourd'hui dans les magasins, c'est du cidre doux, en fait, hein, ou du cidre brut, ou du cidre bouché. Mais le cidre brut dont je parle est
l'extra brut.
Il est un peu noir dans le fond, râpeux, hein. Chez ma grand-mère, il y avait aussi, c'était le cidre, et il y a encore dans la maison de famille une pipe vide, évidemment, c'est-à-dire un tonneau de 1000 litres. Hein, 1000 litres. Et il y avait du vinaigre. Il y a un moment où il y avait du vinaigre qui s'est posé, et j'ai participé à quoi? Le deuxième mari de ma grand-mère, j'ai participé à cette extraction de vinaigre. Et puis, il y avait des petits calvas, il y avait des petits fûts de calvas. Tout ça, c'est conservé, c'est vide, ça c'est mes enfants qui ont cette maison, l'ont conservé comme ça, comme ça, un petit musée. Alors, il y avait des petits tonneaux de calvas. Il y avait un gros tonneau de cidre, un petit tonneau de calvas.
Et Alain Corbin, en faisant vos études supérieures, vous avez eu une curiosité pour les livres qui commençaient à s'écrire sur la guerre, ou vous avez envisagé, vous, de travailler sur la guerre
que vous
aviez
vécue ? Non, mais j'ai lu, par exemple, des choses, Mémoire de Rommel, des choses où le grand cirque de Clostermann, qui était un héros français d'aviation. Donc, on lisait plutôt du tout présent, des gens qui venaient de faire la guerre et qui en parlaient. Hein.
Mais c'est pas un champ qui vous a intéressé,
non. Oh,
professionnellement.
J'aurais pu, ça s'est pas trouvé comme ça. Mais après tout, j'ai beaucoup d'admiration pour Stéphane Audouin Rouzeau aujourd'hui, par exemple, qui a renouvelé complètement l'histoire de la guerre de 14.
Est-ce que vous avez remarqué, Alain Corbin, parce que vous parliez de l'expression avant-guerre et après-guerre, est-ce que vous avez remarqué dans les mentalités? Ne faisons pas d'anachronisme, au moment où on était après la guerre, un changement. Alors, peut-être pas
une inclination tragique, par exemple, mais... ma mère a eu 35 voix, je crois, à la première élection des femmes. Hein, c'était un bouleversement.
Elle s'était présentée ?
Non. Ah, mais c'était la femme du docteur, elle était connue, etc. Elle était un peu à poigne avec le bon. Eh ben, elle a eu ses voix. Elle a eu des voix spontanées, comme ça. Je sais pas, je crois pas qu'elle ait participé particulièrement. Le plan Marshall aussi, j'ai gardé dans un rôle, je me souviens, 12, 13 ans, on faisait garder un petit peu pour que ça s'en a pas, les victoires qui arrivaient de Charleston. Puis alors, on a beaucoup plus mal mangé dans l'immédiat. Après guerre, que pendant la guerre. Parce que le pain était noir pendant la guerre, bon, on se débrouillait quand même. Mais alors, le pain de l'année 45-6, quand j'étais à la pension, c'était un pain de maïs complètement pas levé, qui était vraiment épouvantable. Voilà. Moi, je n'ai découvert les oranges qu'en quatrième, je crois. Hein. Les bananes, plus tôt, peut-être en sixième. Ouais. Alors que j'étais... d'origine, si on peut dire, de tropicale.
Et vous n'avez pas eu, après la guerre, une fascination pour les États-Unis, ni pour les Américains?
Alors les Américains, si, ils m'avaient fasciné entre le 14 août 1944 et le 21 août 1944. C'est-à-dire au moment où on avait quitté cette zone dangereuse, avant de revenir... Alors, avant de revenir, je suis revenu, c'est mon père qui nous a fait revenir, en Jeep. Vous imaginez pas ce que c'est que pour un enfant de 8 ans et demi, d'être avec deux GI de l'époque dans une Jeep en 40 kilomètres. C'est un de mes grands souvenirs, ça, quand même. Hein. Et l'arrivée aussi, où tout était brûlé, dans le bas du bourg. Il restait pas une maison, sauf la nôtre. Parce que l'état-major allemand s'y était mis. Hein, donc, ils n'avaient pas pu la brûler. Mais il n'y avait plus de toit. Ça sentait évidemment le plâtre, etc. Puis il y avait les mines antipersonnelles. Il y en a un qui était juste devant notre maison qui a sauté. Une mine dans le fournil du boulanger, etc. Et il y a eu 14 morts dans la commune de mines antipersonnelles. Alors, il fallait faire attention, on ne fallait pas marcher pendant plusieurs années sur les bernes. Enfin, il fallait faire attention. Alors, il y avait le jardin. Alors, mon père avait demandé aux Américains de passer pour voir s'il n'y avait pas des mines, évidemment, puisqu'on puisse aller jouer. Et je me souviens, avec mon frère, on avait un peu peur quand même, on lançait des grosses pierres pour faire éclater, si jamais il y en avait. C'était pas un jeu, mais c'était la preuve d'une sorte d'anxiété quand même.
Alain Corbin, vous êtes croyant?
Ah, vous... bon, ça c'est une question. Moi, Je me qualifierais d'agnostique, si vous voulez. Je ne sais pas si les gens... Tout le monde sait maintenant ce que ça signifie. Oui, c'est celui qui ne sait pas, qui dit « Ah ben, on ne sait pas ». Voilà, Dieu existe, Dieu n'existe pas, quel est le Dieu, quel est le genre. C'est ça l'agnostique, hein. C'est une interrogation qu'on porte en soi sans avoir de foi, voilà.
Et à 15 ans, vous l'étiez aussi?
J'avais la foi à 15 ans. Ouais. J'étais au collège de l'Immaculée Conception de Flers de l'Orne, qui était un ancien petit séminaire, on appelait encore petit séminaire, vous vous rendez compte. Hein, dans la classe, on passait le bac, mais il y avait 4 ou 5 ou 6 ou 10 qui passaient pas le bac, qui faisaient philo blanche, ça s'appelait. C'est-à-dire qu'ils n'affrontaient pas le bac parce qu'ils allaient aller au grand séminaire, devenir prêtre. Oui. Donc, dans cette ambiance-là, quand même, on n'allait pas dire que c'était on n'avait pas la foi. On se confessait. Le sacrement de pénitence est essentiel dans le... J'ai étudié ça par la suite.
Merci Alain Corbin. À demain soir.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Alain Corbin. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, prise de son Yann Fressy. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.